le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Du 11 au 13 octobre, l'université américaine d'Harvard accueille une délégation de l'université de Bretagne occidentale dans le cadre d'un colloque organisé par le département des langues et littératures celtiques. C'est l'histoire et la culture bretonne qui s'exporte donc à Harvard, pas loin de Boston. Bonjour Yves Coitivi.
Bonjour.
Alors vous êtes professeur d'histoire à l'UBO et spécialiste du Moyen-Âge. Alors l'UBO va intervenir sur deux conférences, principalement axées sur la langue bretonne, si je ne me trompe pas, et ses origines peut-être aussi. Alors quel en sera le contenu de ces deux conférences ?
Alors, ma collègue Nelly Blanchard interviendra sur un ouvrage tout à fait exceptionnel de la première moitié du 19e siècle, qui est un traité sur les astres, sur les planètes, les étoiles, etc., mais en breton, ce qui est assez inhabituel, puisque habituellement, le breton, c'est plutôt la langue de la religion ou des traditions populaires ou des textes littéraires. Et là, on a un texte scientifique qui est assez étonnant, et d'autant plus étonnant qu'il se place avant la grande vague d'astronomie populaire de la fin du 19e siècle, et c'est le premier texte scientifique en breton. Donc c'est vraiment une curiosité, et ce texte était passé complètement inaperçu.
Et qui était-il, cet astronome breton, alors ?
Eh bien, vous le saurez après le colloque d'Harvard, parce que pour l'instant, j'ai eu très peu d'informations. Actuellement, on est tous les deux en train de travailler.
C'est presque une exclue pour Harvard.
Oui, tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le texte étant passé totalement inaperçu, il était totalement inconnu, et donc quasiment inconnu. Et c'est sur... complètement par hasard que Nelly a réussi à le retrouver et donc a décidé de l'étudier. Et c'est un inédit complet. Donc c'est vraiment très très intéressant.
Alors pour votre conférence, de quoi va-t-il en retourner ?
Alors, pour ma part, je vais parler de la façon dont les hommes du Moyen-Âge ont essayé d'expliquer le breton, comment ils ont déterminé les notions de haute et de basse Bretagne, et comment ils ont essayé de trouver une origine à la langue bretonne, origine mythique et une origine peut-être plus sérieuse.
Alors, racontez-nous un petit peu comment ça arrive, comment l'UBO met les pieds à Harvard.
Alors, l'UBO met les pieds à Harvard, ce n'est pas la première fois.
Il y a déjà eu
des collègues qui ont participé. On est au 39e colloque celtique. Et quelqu'un, par exemple, comme Eva Guiorel, qui avait en particulier publié le Barzaz Bruleon, a fait sa thèse de doctorat et a participé à ce colloque. Et, par exemple, nous avons une étudiante brestoise, qui est Myrzine Durand-Boucher, qui fait sa thèse de doctorat actuellement à Harvard, mais qui participe aussi, dans le même temps, à la vie de l'Université de Bretagne occidentale, puisqu'elle participe au printemps, à la fin du printemps, à l'université d'été sur la langue bretonne, qui est un stage de 15 jours à destination essentiellement d'étudiants ou d'enseignants étrangers qui viennent faire du breton intensif à Quimper au mois de juin. Donc Myrzine est installée là-bas, et donc c'est un bel exemple de collaboration entre deux universités.
Alors quelle place ont les cultures celtiques à Harvard ? Ça représente un gros département ?
Ce n'est pas un gros département, mais c'est un beau département avec pas mal d'étudiants et de grands moyens. C'est-à-dire que la culture celtique, alors il faut la comprendre dans le sens Bretagne, Pays de Galles, Irlande, Écosse, etc., plutôt axée sur les langues. C'est plutôt une université sur le langue et littérature. Et ils ont des moyens extraordinaires qui leur permettent d'acheter tout ce qui paraît sur les domaines qui les intéressent, de faire des copies de tout ce qui peut les intéresser et qui est copiable, et d'aller chercher des travaux anciens ou d'acheter des ouvrages anciens pour compléter leur collection. Et ils mettent le tout à disposition des étudiants avec une facilité qui est absolument déconcertante. Un étudiant a besoin d'un article paru en 1922 dans une revue écossaise édité à 50 exemplaires. S'ils l'ont, on lui livre le PDF sous 24 heures. Et s'ils ne l'ont pas, ils vont tout faire pour l'acheter et lui trouver le document. C'est absolument extraordinaire.
Ce qui peut expliquer que des manuscrits en breton arrivent à Harvard.
Exactement, parce qu'en plus, ils ont une politique d'acquisition, comme les grandes bibliothèques américaines, de livres récents, de livres anciens et de manuscrits anciens. Et comme ils ont de très gros moyens et une bibliothèque qui est très très dynamique, ils sont à l'affût de ce qui peut paraître et les intéresser. Donc on est dans une démarche qui est un peu différente des bibliothèques françaises, où les bibliothèques françaises achètent plutôt les livres au fur et à mesure qu'ils paraissent, même si par exemple le CRBC a un important fonds ancien qui a été acheté livre par livre, mais les universités américaines, elles, n'hésitent pas à intervenir sur le marché de l'art ou le marché de la bibliophilie pour compléter leur collection.
Et la langue bretonne et la culture bretonne, ça les intéresse spécifiquement à Harvard ?
Alors, ça les intéresse au même titre que les autres langues celtiques, mais c'est plutôt c'est un pays anglo-saxon, et donc ils sont plus tournés par tradition, par habitude, vers le monde celtique, le monde gallois, le monde écossais. Mais cela dit, ils ne négligent pas du tout le breton, et la preuve, c'est que Eva Guiorel, Myrzin Boucher, quelqu'un comme Kenty Gwern-Jawen aussi, est intervenu à Harvard pour parler de la Bretagne. Donc, ils ne négligent pas la Bretagne.
Alors, vous l'évoquiez, les travaux de Myrzin Boucher-Durand, qui est doctorante à Harvard, où elle enseigne aussi le breton, ce qui est une première.
Oui, alors elle enseigne le breton parce que les doctorants à Harvard sont... Donc elle a été quasiment recrutée pour faire sa thèse à Harvard, mais en échange, elle doit donner des cours, ce qui est en fait très intéressant parce que, en général, quand on fait une thèse de doctorat, c'est pour entrer dans le supérieur. Or là, elle donne déjà des cours qu'elle sera amenée peut-être à l'avenir à donner. Et ça lui permet de se former, d'être au contact des étudiants, tout en continuant à travailler sa thèse. Beaucoup d'étudiants doctorants font des ménages ou sont serveurs chez McDonald's parce qu'il faut... sans citer de marque, parce qu'il faut vivre. Elle a la chance extraordinaire d'être dans une grande université avec beaucoup de moyens, et son métier, c'est de donner des cours de breton, et comme elle aime beaucoup ça, elle en donne d'autres, c'est-à-dire qu'en plus de ceux auxquels elle est astreinte, elle a rajouté des cours pour faire découvrir le breton. C'est que, bon, Myrzin est quelqu'un de passionné, de dynamique et d'ouverture.
Tout en travaillant en parallèle sur sa thèse.
Tout en travaillant sur sa thèse, c'est
et qui répondra à une question super importante aussi, c'est d'où vient le breton ?
Oui, puisque c'est un des axes de sa thèse, de déterminer quelle est l'origine du breton et quelle est la place du Vannetais par rapport au gaulois, par rapport aux autres langues bretonnes. Et est-ce qu'il y a un fond commun linguistique en Bretagne où les quatre dialectes se seraient petit à petit épanouis, ou au contraire, est-ce qu'il y en a un qui est plus ancien que l'autre, etc. Donc voilà son thème de travail.
Avec une question de fond, est-ce que le breton serait plutôt une langue gauloise ou galloise?
Alors ça c'est tout le problème. Et quelle est la part du gaulois dans le breton? Les bretons arrivent donc de l'île de Bretagne et un petit peu d'Irlande et de l'île de Bretagne pour coloniser l'Armorique.
À quel moment c'est?
Alors on est entre le 5e, les premiers mouvements doivent se passer au 4e, 5e siècle, c'est un phénomène long qui se passe peut-être jusqu'au 8e siècle, et de façon assez importante, puisque la Bretagne est quasiment le seul endroit où la population qui s'implante réussit à effacer les langues précédentes. Voilà. Alors que, par exemple, les Francs n'ont pas réussi à imposer une langue germanique en France. On est resté sur une langue latine. Les Bretons, eux, sont suffisamment nombreux pour imposer la langue bretonne. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'il y avait encore du gaulois quand ils sont arrivés ? Est-ce qu'on parlait encore le gaulois quand ils sont arrivés ? Ou est-ce que la langue latine était la langue dominante ? Et quelle est la part ? Est-ce que le breton a effacé le gaulois s'il existait encore ? Ou est-ce que les deux langues se sont influencées ? Ou est-ce que l'une a plus influencé l'autre ? Ce sont des débats très, très importants et qui ne sont pour l'instant pas réglés. Bon, il faut dire aussi un peu faute de documentation. On avance quand même avec... On marche sur des œufs, il faut être très très prudent dans les interprétations. Mais ce sont des sujets passionnants.
Parce que c'est quoi les premières traces de breton qu'on peut retrouver ?
Alors, les premières traces de breton, ce sont des gloses, souvent, des gloses, c'est-à-dire des passages très très courts, où un scribe breton, en marge d'une vie de saint, par exemple, du haut Moyen-Âge, a rajouté une petite phrase pour dire, par exemple, il est question qu'un père corentin, et il va préciser, je suis originaire de là, ou bien ce n'est pas exactement à Quimper corentin, c'est plutôt à Kerfintin, enfin voilà. Donc c'est ce genre de choses, donc on a des petits textes comme ça. On a quelques textes juridiques assez courts, quelques textes poétiques assez courts, et il faut attendre la fin du Moyen-Âge pour commencer à avoir des textes littéraires importants, élaborés, des mystères, par exemple, donc ces grands récits, de ces pièces de théâtre qui évoquent un saint, la vie de Saint Non, par exemple, qui donne son nom à Dirinon, ou ce genre de choses. Et là, on commence à avoir des textes élaborés, et un premier dictionnaire à l'extrême fin du XVe siècle, qui est un dictionnaire français-breton-latin.
Bah justement, quel a été le rayonnement du breton? Par qui était-il utilisé?
Alors, le breton est utilisé par la majorité de la population à l'ouest d'une ligne, pour faire simple, qui irait de Châtel-Audrin à Guérande.
C'est pas du tout la ligne de la Basse-Bretagne, ça.
Alors, ça va, oui, la Basse-Bretagne, elle est un petit peu plus à l'ouest, comme dirait le professeur Tournesol. On parle encore le breton à Guérande au début du XXe siècle, mais on sait que le breton est allé plus vers l'est au Moyen-Âge et qu'avec le temps, petit à petit, il a reculé. Donc, à l'ouest de cette ligne, toute la population parle breton, même si on pense qu'il y a encore quelques isolats romans, il y a des endroits où on parle peut-être le français. Et donc, à l'est de cette ligne, on parle ce que les hommes du Moyen-Âge appellent le français. Ils décrivent la Bretagne gallo, mais ils parlent du français. Sachant quand même que à l'époque médiévale et moderne, on ne parle le vrai français que dans un cercle de 10 ou 15 kilomètres autour de Paris. Après, c'est immédiatement des zones où on parle des langues qui sont inspirées du français, héritées du latin, mais la langue picarde, le dialecte picard, le manceau, ce que nous on appelle le gallo, etc. Donc, qu'il y ait pour les hommes du Moyen-Âge, le gallo, c'est du français, c'est une forme de français. Voilà. Et donc on parle deux langues, à l'ouest le breton et à l'est, on va dire le français, avec des formes un petit peu originales.
Et utilisé aussi bien par les nobles que par le reste de la population.
Oui, la noblesse, le clergé. Alors le clergé est contraint de parler le breton et de comprendre le breton s'il veut pouvoir confesser, dire la messe, etc. Ah. Donc il y a une règle linguistique, ce qu'on appelle la règle d'idiome, qui se met en place au milieu du XIVe siècle, qui oblige à recruter en Basse-Bretagne des bas-bretons, de façon à ce qu'ils comprennent leurs ouailles et que leurs ouailles les comprennent. Et la noblesse, pour les mêmes raisons de vie quotidienne, de gestion des seigneuries, etc., est sans doute bilingue. Et on sait, par exemple, que beaucoup de familles nobles médiévales de Basse-Bretagne ont des devises en breton. Devises en breton qui vont être Macardoué, par exemple, Mon cœur à Dieu, ou bien Bépred, toujours. Enfin, on a des traces de cette pratique du breton, et pratique du breton qui reste valable jusqu'au XXe siècle, puisque toutes les grandes familles aristocratiques bretonnes étaient au contact permanent de leurs paysans qui étaient bretonnants, et ça les amenait à parler breton, ou au moins à le comprendre et à l'utiliser de temps à autre. Et on s'est souvent posé la question de savoir si les ducs de Bretagne parlaient breton. Ils doivent, pour certains, parler breton jusqu'au XIIe siècle, mais ensuite, ils entendent constamment du breton. Quand la famille ducale est à Suciniau, qu'elle est à Guérande, qu'elle est à Ploërmel, etc., ce sont des gens qui entendent du breton. Alors, ils ne le parlaient sans doute pas, mais en tout cas, ils connaissaient l'existence de cette langue.
Est-ce qu'il en reste quelque chose de ce breton du Moyen-Âge dans la langue bretonne actuelle? Est-ce que, par exemple, un britophone serait complètement largué? Est-ce qu'il y a eu énormément d'évolutions?
Bon, je suis pas linguiste, donc je vais pas me hasarder à donner un avis. Il y a eu des évolutions. Le breton du Moyen-Âge, c'est le moyen breton. Bon, quelqu'un qui maîtrise bien le breton contemporain et qui lit un texte médiéval en breton arrive quand même à en percevoir la trame.
Alors après, ce qui serait pas tout à fait le cas pour le français. Ce serait un peu plus compliqué.
Oh, ça va aussi avec un peu d'habitude. D'accord. Pour le français. Le vieux français, ça paraît compliqué, mais avec un peu d'habitude, on le lit. Il y a peut-être l'habitude qui veut ça, mais on le lit relativement facilement. De même qu'on lit relativement bien le catalan médiéval, par exemple. Quand on est français, quand on parle le français, le catalan médiéval ne pose pas énormément de problèmes. Dans le détail, c'est clair qu'il ne faut pas aller trop en avant dans la langue, mais disons que c'est compréhensible.
Alors, à partir de quand l'aristocratie bretonne laisse tomber le breton et pourquoi?
Alors, l'aristocratie bretonne a sans doute parlé, a été bilingue, a parlé le breton pour sa vie quotidienne en Basse-Bretagne et pour l'administration seigneuriale, mais la société aristocratique qui participe à la guerre en France, à la guerre aux côtés de l'armée royale, je pense à tous les bretons qui s'engagent dans les armées royales au 15e et puis ensuite, ils sont obligés de parler français, qui est la langue, qui est une langue internationale, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la même époque, toute l'aristocratie anglaise, par exemple, parle le français. C'est la langue des aristocrates anglais. Donc on a une sorte de langue internationale, ou en tout cas d'un grand espace français au-delà, qui est le français. Et puis après, les gens parlent, sont facilement bilingues.
Alors, les élites ont contribué au rayonnement de la langue bretonne au Moyen-Âge ?
Oui, parce que ce sont eux qui savent lire et écrire, donc prêtres, nobles, bourgeois, et donc ce sont eux qui nous laissent les premières traces écrites du breton. On sait que dans la population, il existe une culture orale qui est très importante et dont on a des traces par des mises par écrit plus tardives. Donc pour le peuple, c'est un peu plus difficile de percevoir la nature de cette culture, mais elle existe. Mais par contre, les élites, elles, donc qui savent écrire, sont les premières à mettre, pour ceux que ça intéresse, je pense à Jean Lagadec, par exemple, l'auteur du Catholicon, ce premier dictionnaire, là, il met par écrit la langue bretonne.
Ah oui, bon, tant qu'on est sur ce dictionnaire, là, comment il a été conçu ? Il a été conçu forcément par un breton.
Ça devait se prononcer Jean, Jehan peut-être, Jehan.
Qu'on pourrait traduire par Joanne Lagadec aujourd'hui,
Jean Lagadec, et qui est originaire de Plougonvin, si mes souvenirs sont bons, donc la région de Morlaix, le Trégor morlaisien, et il écrit un dictionnaire à usage des prêtres, hein, puisque c'est un dictionnaire trilingue, donc on retrouve les trois langues de l'Église, le breton, le français et le latin. Et donc ça donne un ouvrage qui est assez curieux. Mais on sait aussi, par exemple, que les chroniqueurs, par exemple Jean Bouchard ou l'anonyme de la chronique de Saint-Brieuc, sont bretonnants. Et ils connaissent le breton. Ils écrivent pour l'anonyme en latin, pour Alain Bouchard en français, mais ils ont ils connaissent le breton, et de temps en temps, au hasard d'une phrase ou d'une explication, ils donnent une traduction, par exemple. Au sujet d'un lieu-dit qui s'appelle Kerfintin, l'anonyme de la chronique de Saint-Brieuc, on ne sait pas exactement qui c'est, au début du 15e siècle, nous dit « ça signifie l'endroit où il y a une fontaine, le lieu où il y a une fontaine », puis donne d'autres étymologies assez simples, mais qui prouvent qu'ils maîtrisent le breton et ils proposent des explications.
Alors, ces archives en breton, où peut-on les trouver, par curiosité ? Si on veut jeter un œil, ça peut se faire ?
Alors, le breton est une langue orale, quasiment jusqu'à la fin du Moyen-Âge, au début de l'époque moderne. Donc, les archives à proprement parler sont, pour l'essentiel, en français ou en latin. Alors, les textes les plus anciens ont été pour l'essentiel édités anciennement, parce que les bretonnants s'y sont intéressés très très tôt, et ces textes les plus anciens ont été édités au 19e et au 20e siècle. Après, pour les textes religieux, par exemple, du 16e, 17e, 18e siècle, il reste encore des choses à découvrir ou à lire, sachant que ce sont beaucoup de textes d'église. C'est pas forcément ni le breton le plus intéressant, parce qu'il est contaminé par pas mal de termes de français, et les sujets ne sont pas forcément palpitants. Cela dit, on trouve des choses extraordinaires. Ronan Calvez, par exemple, a publié il y a quelques années une sorte de roman légèrement érotique en breton, écrit par un noble breton du XVIIIe siècle.
J'ai cru que vous alliez parler d'un moine.
Un noble. Donc c'est un texte tout à fait étonnant, mais on a encore des choses à découvrir. C'est typiquement le cas de ce texte publié par Ronan Calvez, ou bien le cas de ce document que va nous présenter Denis Blanchard à Harvard sur l'astronomie. Donc il reste encore des choses à découvrir.
Alors vous allez profiter du voyage à Harvard pour accéder aux archives de l'université. Alors par curiosité, qu'est-ce qui va vous intéresser dans ce grand catalogue d'archives ?
Alors le catalogue est monstrueux, en ampleur, et je vais essayer de consulter un maximum de manuscrits ou de copies de manuscrits médiévaux. Il y a beaucoup d'ouvrages, de livres d'heures bretons ou de documents de ce type-là qui appartiennent à des institutions étrangères. Et il se trouve que Harvard en a ou des exemplaires originaux ou des copies qui sont difficiles à consulter autrement. Parce que quand on demande à consulter un manuscrit du 15e siècle, en général, les bibliothécaires ne sont pas très, très perceptifs à l'intérêt de la chose. Et donc, il faut... là, je vais avoir l'occasion de pouvoir au moins, à défaut de voir les originaux, voir des PDF en abondance, et puis voir aussi ce qu'il y a. Parce que finalement, on est assez mal renseigné sur ce qu'il peut y avoir dans ces grandes bibliothèques, et l'exploration via une visite prévue avec Mirzine et l'utilisation des moteurs de recherche spécifiques devrait permettre de faire sortir des choses extraordinaires. Mais on trouve dans les musées, enfin dans les musées américains, dans les bibliothèques américaines, je pense au Metropolitan Museum de New York, j'étais en train de consulter leur base de données, j'ai découvert qu'il y avait un fragment d'épée ducale du 13e ou de la première moitié du 14e siècle dans leur collection. Ben, les armoiries du duc de Bretagne, alors est-ce que c'est Jean Leroux, un de ses fils ou petits-fils, on ne sait pas, mais il y a des choses extraordinaires et... pas forcément dans des endroits où on irait les chercher. C'est ça qui est intéressant. Donc ça va être une découverte.
Et ces manuscrits sont aux États-Unis par la volonté, en fait, la puissance d'acquisition, en fait, des universités américaines.
Les universités américaines sont payantes. Bon, si quelqu'un veut faire un cycle d'études complet à Harvard, c'est-à-dire de la licence au Master 2, il peut compter une dépense entre 60 000 et 100 000 euros d'inscription. D'inscription. On ne parle pas de logement, de nourriture, etc. Hein. En France, ça, c'est gratuit pour les étudiants boursiers et ça monte à 300-400 euros pour un étudiant non boursé d'inscription. Aux États-Unis, c'est entre 15 et 20 000 euros. Hein. Comme ce sont des très grandes universités prestigieuses, ils ont de très gros moyens, ils peuvent attirer les enseignants les plus en vue, ils peuvent avoir des bibliothèques extraordinaires, puisqu'ils n'ont quasiment aucune limite en matière d'argent. Donc ils peuvent acheter tout ce qui passe, c'est fabuleux, quoi. Moyennant quoi, les étudiants qui y sont les payent de leur denier aussi. Entre un système gratuit ou quasiment gratuit à la française et un système anglo-saxon où tout est payant, il faut quand même reconnaître que pour les jeunes français, c'est quand même plus accessible de les universités françaises que les universités américaines. Cela dit, les universités américaines ont aussi des systèmes de bourses et d'aides pour des étudiants brillants, mais pas forcément très argentés. Et puis, il y a une autre curiosité, ils acceptent comme étudiants des grands sportifs. Si on peut dire que on est un basketteur remarquable et qu'on a des grandes qualités de basketteur et que par ailleurs on s'intéresse de près à la langue bretonne, eh bien on peut être embauché comme basketteur pour l'équipe de l'université de Stanford ou de notre et moyennant quoi, du moment qu'on joue, on a des études gratuites ou des facilités. Donc c'est vraiment un système qui est complètement différent du nôtre, et qui a des qualités et des défauts, mais c'est très particulier.
En tout cas, vous essaierez de profiter de votre passage pour en ramener quelques-unes, discrètement, des archives de... Non,
non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non. Et puis, bon, pas très envie de me griller non plus à l'international.
Merci beaucoup, Yves Quattivi.
Ouais, je vous en prie.
L'émission.